Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est vrai, mais bien sûr, où avais-je la tête? C'est l'heure de l'émission. Eh bien, où sommes-nous là? Ah oui, ça y est, je sais que tout va se dérouler parfaitement et que nous allons, comme chaque semaine, découvrir plein de choses, j'en suis convaincu. Ursula Séraphin, quand vous étiez petite, est-ce que l'univers des princesses faisait partie de votre imaginaire?
Écoutez, pas vraiment. J'étais plutôt branchée sur l'univers des Indiens. Je voulais sauver le monde pour rendre la vie plus facile.
Ah, ben ça va peut-être se rapprocher de ce dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, je laisse le suspense un petit peu comme chaque semaine. Et bien sûr, je voudrais aussi vous annoncer, Ursula Séraphin, que, comme c'est la tradition dans cette émission, vous allez être l'étincelle dans la ville de cette émission. Voilà, à partir de cet instant, vous voici une étincelle dans la ville. Allez, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Le 9 juin 2024, les Français éliront leurs 81 députés européens. Les médias et les partis politiques ne manqueront pas, et cela a déjà commencé, à mettre en valeur les candidats en lice et leurs programmes. D'ailleurs, il est important de préciser que les Français ne voteront pas tout à fait pour des candidats, mais qu'ils voteront plus précisément pour des listes de candidats, ce qui est un petit peu différent. Et bien sûr, avec chacune, pour chacune de ces listes, des programmes. Voilà. Et en fonction des résultats, eh bien, un certain nombre de candidats seront élus ou pas élus députés européens. Quel sera leur rôle une fois élus? Comment voter? Pour qui voter? Bien sûr, pour celles et ceux qui accomplissent leur devoir en glissant un bulletin dans l'urne, ce sera en fonction de ce qui leur semble le plus juste. On l'espère. Mais qu'en est-il de l'Europe? C'est quoi l'Europe? Un pays? Pas encore. Une nation? On en est loin. En sera-t-il un jour le cas? Je n'en sais rien. Une entité juridique et géographique? Probablement. Ou les contours d'ailleurs d'une telle définition sont assez flous malgré tout. Alors, pour le grand public, l'Europe, c'est beaucoup de choses et en même temps, c'est très flou. Et ici, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit très particulier, puisqu'on fête l'Europe. Je ne savais pas qu'on pouvait fêter l'Europe. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, sur la place de l'Hôtel d'Aville, devant la mairie de Paris. Ursula Séraphin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice de la Maison de l'Europe.
De Paris.
Ah, et de Paris.
Voilà. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est très compliqué. En fait, le rôle de la Maison de l'Europe, c'est plutôt d'informer les citoyens sur l'actualité européenne, sur le fonctionnement des institutions européennes et comment les citoyens peuvent participer à la vie dans l'Union européenne. Donc, nous, on n'est pas là pour dire comment il faut voter, pour qui il faut voter, mais on donne l'information pour que chacun puisse trouver sa voie dans cette forêt de, d'idées sur l'Union européenne.
Alors, c'est le même cas pour moi, hein. Je ne suis pas là pour vous donner des consignes ou pour faire un débat politique. Aujourd'hui, on fête l'Europe. Alors, je ne savais pas que cette fête de l'Europe existait. C'est grâce à vous, d'ailleurs, hein, que j'ai découvert ceci. Je vous en remercie. Parce qu'en fait, il s'en passe des choses ici. Il s'en passe d'abord, déjà, beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes présente sur des stands. Vous racontez ce que c'est que la Maison de l'Europe. Alors, finalement, la Maison de l'Europe, c'est quoi ?
La Maison de l'Europe est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui donc était à l'initiative de l'organisation de la Journée de l'Europe à Paris. Et en fait, ça fait déjà pratiquement 20 ans que cet événement a lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On a commencé par 2 tables, 3 tables, 4 tables. Aujourd'hui, on occupe tout le parvis de l'Hôtel de Ville avec les institutions européennes, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, avec la Banque européenne, avec le Comité économique et social européen, avec une 20aine d'associations européennes. Voilà, donc on essaye de rendre l'Europe aimable auprès des citoyens.
L'Europe aimable auprès des citoyens, c'est une jolie phrase que vous me racontez. D'ailleurs, on ira à leur rencontre tout à l'heure, j'irai en rencontrer certains. Je ne pourrais pas tous les recevoir dans l'étincelle parce qu'elle est trop courte l'émission. En tout cas, bienvenue dans cette étincelle dans la ville, Ursula Séraphin. Alors, la Maison de l'Europe, c'est aussi un bâtiment à Paris.
C'est aussi un bâtiment, c'est un lieu d'échange. On accueille le public dans le cadre d'un contrat que nous avons avec la Commission européenne. Donc, c'est un appel à projet qui nous permet d'avoir toute l'information sur l'Union européenne, l'information officielle, qui s'appelle Europe Direct. Donc, vous avez un réseau d'Europe Direct dans toute la France, mais vous avez aussi un réseau Europe Direct dans toute l'Union européenne. Dans toute l'Union européenne, c'est à peu près 450 points d'information sur l'Union européenne. En France, c'est une 50aine de points d'information sur l'Union européenne. Donc, les citoyens n'ont pas d'excuse de ne pas avoir un point d'information sur le territoire français.
Voilà, c'est Ursula Séraphin qui nous le raconte. Vous n'avez pas d'excuse. Et permettez-moi, puisqu'on parle d'information, je vous ai posé une question sur les princesses. Vous avez dû vous dire, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Vous savez qui était Europe ?
Ah oui, c'était une princesse, oui, voilà. Donc, c'était une princesse qui s'est fait enlever par le taureau, voilà. Bon, après, c'est des histoires grecques, voilà. Vous avez plusieurs interprétations. Il y a à la fois l'histoire qu'on raconte sur la princesse Europe, mais il y a aussi pas mal d'œuvres peinture, voilà, sur l'enlèvement de l'Europe.
Voilà, on m'a raconté, j'ai vaguement tenté d'y voir clair, parce que dans la mythologie grecque, c'est toujours très, très compliqué. Et parfois, ça semble un peu dramaturgique aussi, l'Europe. Hein. Ça, parfois, il y a des contours un peu complexes, malgré tout. Alors, c'était une princesse phénicienne, et on raconte que la Phénicie, c'était, avait comme berceau, en tout cas une partie du Liban. L'Europe, finalement, ça remonte à loin ?
L'Europe, ça remonte à loin. Voilà, vous avez un petit livre de Pierre Haroche, que je me permets de citer ici, qui a recensé dans une espèce d'anthologie toute l'histoire de l'Europe à travers la littérature. J'invite vraiment tous les éditeurs de l'Étincelle à se référer au livre de Pierre Haroche pour avoir un aperçu de l'Europe à travers l'histoire de la littérature et de l'art.
Alors, l'Europe, c'est un territoire qui est considéré conventionnellement comme un continent. Étrange situation et qui reste, faute de séparation claire et précise, l'objet de nombreuses controverses sur l'appartenance ou non d'un certain nombre de pays au continent européen. Alors, où commence l'Europe, où finit l'Europe ? C'est très compliqué. Alors, on peut considérer que c'est une partie du supercontinent de l'Eurasie et de l'Afro-Eurasie. Alors, vous avez tous votre map monde sous les yeux, hein. Vous voyez ce que je veux dire, je vous laisse regarder. Bon, en tout cas, cette Europe, pas l'Europe des 27, bien sûr, mais cette Europe que l'on considère comme telle, c'est 743 millions d'habitants, qu'on en appelle malgré tout les Européens, hein. Il faut savoir qu'il s'agit du deuxième plus petit continent qui couvre un peu moins de 4% des terres émergées. C'est tout petit, finalement. Alors, on peut distinguer les grandes régions de l'Europe, hein, l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, bon, voilà. Mais dans cette émission, aujourd'hui, on va fêter une autre Europe, pas celle que je viens de décrire, c'est l'Europe des 27. C'est celle qui juridiquement, je dirais politiquement, est né un jour et de la volonté d'un certain nombre de personnes.
Oui, effectivement, vous avez bien décrit qu'on a d'un côté le continent européen avec la difficulté de décrire les frontières, etc., et avec les différences qu'on peut avoir au sein de ce continent. Mais on a aussi une entité politique qui est l'Union des 27 aujourd'hui. C'est des pays qui se sont volontairement mis ensemble pour, entre guillemets, gérer leur appartenance européenne et leur vision commune de la démocratie européenne.
Alors Ursula Séraphin, vous avez commencé à nous éclairer sur cette fête de l'Europe et sur ce qu'est l'Europe. Alors évidemment, en 56 minutes, malgré le nombre d'invités qui vont se succéder à ce micro, on ne va pas y arriver. Mais j'ai qu'une chose à recommander à nos auditeurs. La Maison de l'Europe, c'est ouvert à tout le monde.
La Maison de l'Europe est ouverte à tout le monde. On a pas mal d'initiatives qui peuvent éclairer tous les citoyens. Donc, on est déjà ouvert au public tous les jours où chaque citoyen peut venir nous voir et poser leurs questions. On a pas mal d'activités qui sont liées à l'Union européenne, qui sont à la fois des conférences grand public sur les sujets liés à l'actualité. On balaye très, très large. Donc, on a le culture, le social, l'écologie, l'économie, les crises, etc. Tout ce que vous pouvez trouver en tant que sujet européen. On a aussi des sessions de formation pour les jeunes. Et on s'est spécialement consacré au public des lycées professionnels qui, à notre sens, sont un peu moins lotis comme les lycées généralistes par rapport à la connaissance des affaires européennes et donc on répond à des demandes des enseignants des lycées professionnels pour leur expliquer l'Europe pour expliquer l'Europe aux jeunes gens.
Voilà, l'Europe aux jeunes gens de 7 à 150 ans, allez, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est la Maison de l'Europe. Alors, vous avez une adresse actuelle mais vous allez déménager?
Voilà, nous avons une adresse, voilà, donc on est basé dans le 17e arrondissement, mais on va bouger. On va aller dans les locaux beaucoup plus grands, beaucoup plus spacieux, où on va pouvoir recevoir beaucoup plus de monde dans le 16e arrondissement au bord de Seine. Ça va être formidable.
Ça va être formidable, comme dit le chanteur belge formidable. Vous le connaissez celui-là? Permettez-moi de vous demander de quelle nationalité vous êtes.
Et moi, je suis française, mais je suis née en Pologne, donc j'ai la double nationalité polonaise et française.
Oui, il y avait le petit accent qui se balade là. Alors, un site internet, en attendant de faire une petite visite à la Maison de l'Europe, bien sûr, le site internet, j'imagine.
Voilà, Maison de l'Europe. Vous tapez, vous tombez tout de suite. Merci Google de nous référencer rapidement.
Merci beaucoup Ursula Séraphin. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison de l'Europe et merci de nous avoir accordé ce petit entretien. Et puis je vous souhaite bonne continuation pour cette fête de l'Europe. Alors, il commence à y avoir un petit peu de monde sur cette place de l'Hôtel de Ville de Paris, devant la mairie de Paris. Et il y aura des concerts, on peut manger, on peut assister à des conférences, enfin, plein de choses sympas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et longue vie à l'étincelle.
Merci beaucoup, Madame Séraphin. À plus tard. Et je vais continuer ma petite visite avec toute l'Europe.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et on continue notre petite visite sur la fête de l'Europe devant la place de l'Hôtel de Ville, devant la mairie de Paris, sur son parvis. Et je suis en présence de Chloé Lippert. Bonjour Chloé Lippert.
Bonjour.
Alors, vous occupez de la communication et des réseaux sociaux de toute l'Europe, sous-titré « Comprendre l'Europe ». Alors, racontez-nous, c'est quoi toute l'Europe, comprendre l'Europe ?
Alors, toute-l'Europe.eu, c'est un site d'information pédagogique sur l'Union européenne. Notre travail, c'est d'expliquer au grand public comment fonctionne l'Union européenne, ce que fait l'Union européenne, d'expliquer comment fonctionnent les institutions. Et on essaie de faire ça avec des articles pédagogiques, des vidéos, des infographies. Tout est en accès libre sur notre site. Tout est gratuit.
Alors, ça permet à qui de s'informer sur le sujet de l'Europe, sur les sujets de l'Europe ? C'est compliqué, l'Europe ?
C'est très compliqué à comprendre, c'est pour ça qu'on existe. On essaie de s'adresser au grand public, à des personnes qui ne sont pas du tout spécialisées sur les questions européennes et qui vont vouloir rechercher des informations. Et donc nous, on essaie de leur offrir des informations, de la rendre la plus compréhensible possible, la plus compréhensible possible, la plus pédagogique possible et de sortir du jargon européen, par exemple, des institutions.
Alors justement, vous faites bien d'en parler de ce jargon européen, parce que parfois, on en entend certains, on a du mal à les suivre. Alors, comment vous faites et comment vous travaillez pour réaliser les sujets que vous traitez sur toute l'Europe, comprendre l'Europe ?
Alors, sur toute-l'Europe.eu, en fait, on a une partie très pédagogique. On a une partie beaucoup plus axée actualité. Donc, la partie pédagogique, elle est vraiment là pour expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, le fonctionnement des institutions à travers des articles simples, des podcasts ou des infographies. Et toute la partie actualité, qui est également sur notre site, elle va plus être là pour expliquer, par exemple, ce que va voter le Parlement européen lors des sessions plénières et d'expliquer tout ce qui est voté au niveau européen, au niveau de l'Union européenne.
Une espèce de chaîne d'information finalement sur ce qui se passe sur les institutions européennes et sur l'Europe. Alors j'ai eu l'occasion évidemment d'écouter vos podcasts, des podcasts très courts, très simples.
Oui, tout à fait. On a une chaîne de podcasts qui s'appelle 3 minutes pour comprendre l'Europe et qui sort une à deux fois par mois sur des sujets très pédagogiques. Donc on a tout le fonctionnement des institutions, on va avoir le Parlement européen, le rôle des députés européens. On a également un podcast qui est sorti sur les 20 ans du grand élargissement.
C'est quoi le grand élargissement ?
Le grand élargissement, en fait, c'est quand 10 États ont rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Et c'est ce qu'on appelle également l'élargissement à l'Est de l'Union européenne.
Donc, on est passé de 17 à 27 ?
Pas exactement, on est passé de 15 à 25.
Je me suis planté. Faut que je regarde toute l'Europe, faut que j'aille voir.
Faut écouter notre podcast, on explique tout dedans. Effectivement, on était 15 et après, il y a 10 États qui sont venus se rajouter en 2004, puis 2 en 2007. Un dernier en 2013 et enfin le Royaume-Uni qui est parti en 2020, ce qui fait qu'on est de nouveau à 27 aujourd'hui.
Voilà, alors vous voyez, vous avez la preuve noir sur blanc qu'il faut vraiment s'informer, bien se renseigner. Merci beaucoup Chloé Lippert, c'était parfait, vous nous avez parfaitement décrit la situation et j'incite tout le monde à aller jeter un œil et s'informer avec le site Toute l'Europe. Il suffit de taper Toute l'Europe.
Absolument, vous tapez toute-l'Europe.eu et vous tombez directement chez nous et vous avez accès à tous nos contenus.
Merci beaucoup et puis tenez-nous au courant.
Ouais, merci à vous.
Et bon courage et bonne suite pour cette fête de l'Europe. Et c'est toujours depuis la place de l'Hôtel de Ville. Alors là, je vais un peu me déplacer. J'en profite puisque je dois me rendre auprès de mon invité suivant pour évidemment remercier la régie technique finale. Sont-vous tous qui êtes présents actuellement pour réaliser avec moi cette émission. J'en profite pour remercier bien sûr Thomas, Célian et Armand. Et ben, écoutez, ça se passe très bien. Alors pour moi, c'est un peu compliqué parce que il y a un monde fou là-dedans. C'est vraiment très 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 dynamique. Alors où est-ce que je vais là ? Je vais poser mon prompteur sur la table, voilà, et je vais directement me rendre au Conseil de l'Europe. Alors rassurez-vous. Le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le stand qui représente le Conseil de l'Europe à Paris. Voilà. Nadine Michalak, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis avec vous devant le stand Conseil de l'Europe pour cette fête de l'Europe, place de l'Hôtel de Ville devant la mairie de Paris dans le premier arrondissement. Alors, Conseil de l'Europe. Moi, je trouve qu'il manque le Conseil de l'Europe. Il y a marqué Conseil. Alors, c'est quoi le Conseil de l'Europe ?
Donc, le Conseil de l'Europe est la plus ancienne organisation internationale sur le continent européen de défense des droits de l'homme. Donc, nous existons depuis 1949 et nous fêtons cette année notre 75e anniversaire.
Bon anniversaire.
Merci beaucoup. Donc, ce qui est important, c'est que nous sommes 46 États membres. Notre siège est à Strasbourg, puisque nous avons été créés après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans un signe de réunification entre la France et l'Allemagne, il a été décidé que le siège serait Strasbourg. Donc voilà, nous sommes plus de 2000 fonctionnaires internationaux basés à Strasbourg et pour travailler dans le domaine donc, de la défense, des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit.
Alors, je suis étonné, c'est une forme d'Europe un peu particulière parce que déjà, vous êtes 46 alors que l'Europe officielle, ils sont que 27 si je ne dis pas trop de bêtises.
Tout à fait, donc c'est l'Europe, c'est la grande Europe, donc les 27 membres de l'Union européenne, plus l'Europe élargie puisqu'on va jusqu'à la Turquie, vers l'Azerbaïdjan, on a aussi l'Ukraine, nous n'avons malheureusement pas plus, on va dire, la Russie, puisque la Russie était membre depuis 1995. Et a été exclu du Conseil de l'Europe en mars 2022 par notre comité des ministres.
Alors concrètement, ça sert à quoi et ça fait quoi le Conseil de l'Europe ?
Alors le Conseil de l'Europe travaille pour 700 millions d'Européens et défend les droits de l'homme, donc pour chaque citoyen européen, en fait, de chaque État membre. Donc, nous travaillons dans la démocratie, l'état de droit, nous établissons des conventions. Ces conventions sont ensuite ratifiées par nos États membres et là, elles deviennent contraignantes et ils doivent mettre en œuvre la convention dans la législation nationale.
Eh bien, voilà un bon panorama de vos activités. Alors, beaucoup de monde qui travaille sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à régler.
Oui, énormément. Et on travaille sur tous les sujets. On rappelle aux États membres leurs droits par rapport, et leurs devoirs surtout, par rapport donc à la Convention européenne des droits de l'homme qu'ils ont tous ratifiée, y compris tous les membres de l'Union européenne, et même l'Union européenne en tant que telle veut ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, donc ce qui est un pas très important. Et donc on leur rappelle leurs devoirs quand il y a une petite défaillance, on va dire, au niveau de leur législation nationale.
Nadine Michel-Axy, nos auditeurs, nos auditrices veulent en savoir plus sur ce que c'est que le Conseil de l'Europe, comment ça fonctionne et les actions que vous menez. Comment peuvent-ils s'informer ?
Donc déjà, nous avons notre site internet www.coe.int. Nous avons des conférences qui sont organisées malheureusement à Strasbourg et ce n'est pas en visioconférence, hein. C'est en présentiel, mais pour faire connaître au grand public notre travail au quotidien. Et nous avons mis en place ces conférences depuis 2017 au grand public et elles sont complètes à chaque fois. Donc si vous venez à Strasbourg, n'hésitez pas de suivre la page les mercredis du Conseil de l'Europe. Vous aurez toutes les dates des prochains événements. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer le prochain qui est le 15 mai. Et qui est un thème très important sur l'intelligence artificielle, puisque le Conseil de l'Europe établit, et elle devrait être mise en œuvre, donc validée par notre comité des ministres le vendredi 17 mai, la convention qui est le premier traité mondial sur l'intelligence artificielle.
Un sujet délicat qui commence à susciter des remous dans pas mal de pays dans le monde et un sujet qui fera probablement l'objet de pas mal de débats avant que tout le monde se mette d'accord. En tout cas, merci beaucoup Nadine Michel-Axy de ces petits propos que vous nous avez tenus pour nous expliquer vite fait. Mais ceux qui veulent en savoir plus, hein, c'est simple, hein, le site internet le Conseil de l'Europe et puis tout roule. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Et vous aussi, bon courage pour cette fête de l'Europe avec du monde. Hein. Ça commence. Oui, on se tient au courant, vous inquiétez pas. Voilà, et on continue dans cette étincelle, toujours donc sur cette place de l'Hôtel de Ville. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas tout neuf et qui touche l'Europe depuis fort longtemps, pour les jeunes. Anne-Sophie Brieux, bonjour. Alors, vous occupez d'un sujet tout particulier qui s'adresse aux jeunes. Racontez-moi.
Bonjour. Alors, je travaille pour le programme Erasmus+ en France, à l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, qui est située à Bordeaux et qui gère le programme Erasmus+ pour la France dans les secteurs.
Oh là là, c'est compliqué. Erasmus Bordeaux, Erasmus machin. C'est quoi Erasmus?
Alors, Erasmus, déjà, ce n'est pas que pour les jeunes, parce que c'est à tout âge, en réalité.
Ah, je peux adhérer à Erasmus aussi ?
Tout à fait. Vous pouvez.
En voilà une bonne nouvelle. Eh, les gars, je ne savais pas ce truc-là. Moi, je croyais que c'était réservé qu'aux jeunes. Bah, merci de cette petite information. Alors, Erasmus, on a l'habitude dans l'imaginaire de tous les concitoyens. C'est des étudiants qui vont dans un autre pays, et puis il y en a d'autres qui viennent d'un autre pays. Alors, racontez-nous.
Alors, effectivement, Erasmus+, ce sont des échanges. Des personnes qui partent étudier, faire des stages à l'étranger, faire des expériences professionnelles à l'étranger également, en Europe, mais aussi hors Europe depuis quelques années. Et c'est également, évidemment, l'accueil d'autres personnes étrangères qui viennent faire des expériences professionnelles, des études, suivre des stages en France également. Et donc, nous, on gère toutes les personnes inscrites en France qui partent vers l'étranger, vers l'Europe, et vers le monde. Et effectivement, ça peut être dès l'école maternelle avec des enseignants, des élèves qui finalement vont à la rencontre d'autres écoles en Europe. Et puis ça peut être aussi en primaire, au collège, au lycée, jusqu'au bac, mais également dans la voie professionnelle, avec les apprentis, avec des stagiaires qui sont dépendants de Pôle emploi, avec des maisons familiales et rurales, des missions locales. Également, on peut partir quand on est dans une association en tant que bénévole pour se former, aller échanger des pratiques avec d'autres bénévoles d'associations. On peut évidemment partir quand on est étudiant, que ce soit pour un stage ou des études. Et vraiment, tout au long de la vie, on peut aussi, à un moment donné, se reconvertir, se réorienter professionnellement et bénéficier d'Erasmus dans le cadre d'une formation. Donc, c'est possible à tout moment. Et aussi, quand on veut échanger des pratiques professionnelles avec d'autres personnes qui font le même métier que soi, mais au Portugal, en Finlande, ailleurs, en Europe ou même dans le monde, on peut avoir des projets pour ces échanges-là.
Vous avez décrit un catalogue très large, Anne-Sophie Brieux. Alors, ça dépasse largement les débuts d'Erasmus, où c'était beaucoup plus timide, ça se limitait à l'Europe et c'était des échanges d'étudiants, plutôt des étudiants des universitaires.
Effectivement, en 1987, Erasmus a été créé pour les étudiants de l'enseignement supérieur, également les professeurs. Et puis, dans les années 90-2000, différents programmes ont été créés sur ce modèle-là. Et en 2014, c'est Erasmus+ qui a rassemblé ces différents programmes pour avoir plus de public et avec aussi plus de budget et un impact renforcé également parce que les mobilités sont mieux valorisées et mieux reconnues également dans les parcours.
Ça représente quel volume de partants, on va les appeler comme ça, je ne sais pas si vous les nommez comme ça, qui participent à votre programme ?
Alors, entre 1987 et aujourd'hui, il y a 14 millions de personnes qui ont bénéficié d'Erasmus à travers l'Europe. En France, l'agence Erasmus+ France Éducation, Formation, Finance, chaque année, plus de 100 000 mobilités, tout secteur confondu, 140 000 en 2023. Donc voilà, c'est à peu près l'échelle qu'on a aujourd'hui. Ça s'est évidemment énormément accéléré. Il y a une demande très importante du côté des structures qui permettent d'envoyer des personnes en Erasmus, que ce soit des écoles, des universités, des centres de formation, mais aussi des collectivités territoriales, des associations, c'est même certaines entreprises qui peuvent porter certains projets parfois. Et donc, il y a vraiment une demande énorme aussi dans l'enseignement scolaire parce que la France reconnaît maintenant la mobilité en lycée général et en lycée professionnel. Donc ça, c'est une avancée. Toujours la mobilité est presque maintenant un passage obligé dans les parcours.
Et oui, si vous êtes jeune, eh bien, profitez-en, il faut voyager. On dit que les voyages forment la jeunesse. Bonjour, c'est votre cas, le voyage a formé votre jeunesse. Quel est votre prénom ?
Bonjour, je m'appelle Claire et donc je fais partie du réseau d'ambassadeurs de l'agence Erasmus+ Éducation Formation.
Alors, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Hein. Allez, on souffle. Bon, Claire, vous avez, j'imagine, participé à un programme Erasmus avant de devenir ambassadrice.
Oui, bien sûr. Donc, dans mon cas, je suis partie étudier un an ou même 6 mois en Finlande.
En Finlande ? Vous avez vu les rennes ?
Oui, j'ai vu les rennes, même si ce n'était pas dans ma ville. Mais j'ai aussi participé en tant que spectatrice à la Coupe du Monde de hockey sur glace à l'époque. Et c'est vrai que dans mon cas, Erasmus, la mobilité, n'a pas représenté que des cours à l'étranger. J'ai pu faire du bénévolat, par exemple, dans des événements, par exemple, un festival du court-métrage.
Dans quoi ?
Dans un festival du court-métrage. J'ai pu faire du bénévolat et m'intégrer culturellement avec les personnes. Et c'est vrai que l'agence Erasmus+ offre un financement qui nous permet de partir. Dans mon cas, je suis en situation de handicap, donc j'ai pu avoir même un financement supplémentaire qui m'a permis de partir malgré mon état de santé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que l'agence, et c'est ce qu'Anne-Sophie a pu vous dire, il y a eu des progrès énormes dans le programme ces dernières années, et ça permet en fait de vivre des expériences au-delà de la simple formation d'expériences humaines.
Voilà, en préparant cette émission, vous m'aviez proposé, Anne-Sophie Brieux, des témoignages de jeunes qui ont participé à un programme. Merci beaucoup.
Merci.
Et je vois que ça s'est bien passé. Moi, quand je suis allé en Finlande, j'ai adoré les saunas avec les lacs, hein, c'est trop bien. Hein. On sort du chaud, on se jette dans le gelé. Vous avez fait ce truc-là ?
Ah oui, totalement. Et en plus, dans les résidences universitaires finlandaises, vous avez le sauna au sous-sol. Donc, oui. Vous en accès libre.
Il y en a partout des saunas en Finlande, c'est génial. Anne-Sophie Brieux, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Erasmus dans les années à venir ? La question qui est difficile à répondre, mais ça va se développer forcément.
Alors, ce qu'on peut espérer c'est, pour Erasmus+, c'est que l'on puisse encore mieux répondre à la demande qui est vraiment croissante, avec vraiment un engouement de la part de tous les publics. Ce qu'on peut espérer, c'est un accès amélioré encore pour les publics à l'information, pour que chacun puisse en bénéficier. Il y a une dimension inclusion très importante dans le programme Erasmus+, et c'est vraiment l'objectif, c'est que chacun puisse avoir accès à l'information, accès à ses opportunités à son échelle, où qu'on soit, quel que soit son âge, quel que soit son milieu. Ça, c'est vraiment voilà, la priorité. Et donc, plus de budget pour permettre à plus de personnes d'en bénéficier, évidemment.
Et ben justement, plus de budget, ça veut dire aussi que si on veut participer à un programme Erasmus, comment on fait, comment ça se passe, comment ça s'organise, comment on doit procéder?
Alors, pour partir en Erasmus+, il faut s'orienter vers le service des relations internationales de son établissement. Ça peut être un professeur référent quand on est à l'école, au collège, au lycée, ou en CFA également, ça peut être un référent mobilité. Et puis le service des relations internationales à l'université. Les antennes de Pôle emploi ont également des conseillers qui sont formés à orienter vers les mobilités Erasmus+. Donc voilà, il y a des informations. Et puis sur le site agence.erasmusplus.fr, pour toute information également et des questions sur nos réseaux sociaux.
Voilà, sur le site d'Erasmus, finalement, il y aura tout. Merci beaucoup, Anne-Sophie Brieux. Et si vous me le permettez, nous allons faire une première halte, tous ensemble ici, devant cette mairie de Paris, sur cette place de l'Hôtel de Ville, sur son parvis. Cette première halte avec quelqu'un qu'on aime bien sur Aligre, et moi aussi d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Alors, pour les fidèles auditeurs de l'Étincelle dans la Ville, nous le programmons régulièrement parce qu'il a un répertoire extrêmement riche et qu'il navigue dans un univers très poétique. C'est un Européen convaincu, celui-là. Ce chanteur, auteur, compositeur, interprète, parolier et instrumentiste italien, influencé par le jazz et le blues, a pendant 25 ans vécu deux carrières, celle d'avocat et celle de chanteur. C'est pas banal, hein, c'est pas non plus une maladie, hein. Alors, un jour, il abandonne complètement sa robe d'avocat. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, nous fêtons l'Europe, car l'enregistrement que je vous propose se déroule en 1988 à Amsterdam. Allez hop, on monte au nord de l'Europe, c'est en public. Et bien sûr, il vient d'Italie, ce chanteur, et on l'aime beaucoup. C'est un pianiste. Il fait corps sur cet enregistrement avec un orchestre symphonique, avec un ensemble composé d'accordéonistes et d'un batteur et des guitaristes. Voilà, un moment exceptionnel. C'est dans L'étincelle dans la ville. Le titre de la chanson, c'est trois lettres, c'est Max. On écoute Paolo Conte.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Max era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max non si spiega, fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.
Sur Aligre, dans l'étincelle dans la ville, on vient d'écouter Max, une version unique interprétée par Paolo Conte, et de retour avec vous tous pour cette deuxième partie de l'émission. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous réalisons cette étincelle dans la ville depuis la place de l'Hôtel de Ville de Paris, devant la mairie. Et oui, un événement tout particulier qui fête l'Europe. Ça s'appelle tout simplement la fête de l'Europe. Alors, à mes côtés, bonjour, vous êtes volontaire de Paris. Quel est votre nom, votre prénom ?
Paul-Martin Menguet. Et je suis volontaire de Paris depuis 5 ans.
Alors, Paul Martin, c'est quoi un volontaire de Paris ?
Un volontaire de Paris, c'est un habitant de Paris qui participe à des activités qui sont liées à la ville de Paris. Ça peut être des activités culturelles, ça peut être des activités liées à l'environnement et participer aussi à des débats sur des projets sur la ville de Paris.
Alors, quel rapport avec l'Europe ? Pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui ?
Justement, on est là aussi parce que Paris fait partie des capitales de l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici présents pour attirer les jeunes Européens et les jeunes Parisiens à participer à des activités de volontariat qui permettent au développement de la ville de Paris.
Alors, comment ça marche, le système ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être volontaire et à quoi ça sert un volontaire, finalement ? Il va participer à quel genre d'opération, concrètement ?
Alors, ça peut être des opérations liées à la propreté, ça peut être des activités de volontariat de toutes sortes où on se sent à l'aise à participer et à aider, ou même de manière générale à agir pour la ville de Paris, que ce soit dans la solidarité, que ce soit pour le reboisement de Paris, que ce soit pour d'autres activités liées de manière générale à la ville, où on se sent utile pour la ville.
Alors, si on veut faire partie des volontaires... Alors, pour les Jeux Olympiques, j'ai cru comprendre que vous participiez aussi pour justement recruter des volontaires pour aider sur cet évidemment, événement qui va demander beaucoup de monde.
Oui, justement, pour les Jeux Olympiques à Paris, nous avions des volontaires qui vont participer. Ils seront là pour faire des animations. D'autres aussi seront là, bien évidemment, pour aider pour des cas d'accidents où ils vont intervenir pour jouer des secouristes pendant les Jeux et aussi participer même à la propreté parce que vous savez aussi que ça joue pour représenter l'image que Paris a toujours voulu présenter aux yeux du monde. Cette belle capitale, de voir la voir belle, la voir propre. Et c'est justement cette motivation qui habite certains volontaires comme moi à participer à ce type d'activité pour être utile une fois de plus à cette belle capitale qui nous accueille tous.
Et ben, cette motivation qui vous habite, Paul, on la sent, on l'entend. Merci beaucoup de nous avoir précisé comment fonctionnent les volontaires de Paris. J'imagine qu'il y a un site internet où il faut passer par la mairie. Comment ça marche ?
Tout à fait. Il y a un site internet qui a été mis sur pied où on peut s'inscrire. Une fois inscrit, on indique toute son affiliation et vous recevez une carte de citoyen de la ville de Paris. Et grâce à cette carte, vous avez des privilèges, c'est-à-dire vous êtes informé à toutes les activités, sur toutes les activités, autant pour moi, qui sont liées à la ville de Paris. D'où vous pouvez vous engager à participer selon vos disponibilités, une fois que vous avez les notifications par mail.
Merci beaucoup, Paul. Et on va franchir, si vous me le permettez, la Manche. C'est la fête de l'Europe. Bien sûr, Paris et la France vont recevoir des pays qui dépassent largement le continent européen. Ils vont arriver du monde entier. Mais là, on va aller en Angleterre. Voilà. Alors, bon, ils nous ont quittés. Ils ont quitté l'Europe, les 27. Mais je suis convaincu que c'était sur une méprise. Et on va traverser la Manche parce que on va s'intéresser à quatre jeunes qui étaient plus intéressés par la musique que par l'école. Ils sont originaires d'une ville très pauvre, Liverpool, au Royaume-Uni. John, Paul, les deux leaders du groupe, forment un premier groupe en 57, mais c'est en 1960 qu'ils prennent officiellement le nom de leur futur groupe qui traverse tous les continents. Un nom qui a pour un mélange deux mots, Beatle, scarabée, et beat, qui veut dire rythme. Alors, selon les récits d'un de ses créateurs de ce groupe, c'est son fils Julien, plus précisément, âgé de 4 ans, qui revient un jour de la maternelle avec un dessin. Voilà. On est en 1967. Ce dessin représente une de ses camarades nommée Lucie O'Donnell. Vous voyez où je veux en venir ? Ça va inspirer l'œuvre qui va suivre et que l'on va entendre. Lucie dans le ciel avec des diamants. Lucy in the sky with diamonds. Voilà, tout simplement, on écoute les Beatles. Lucy in the sky with diamonds. C'est dans l'étincelle dans la ville et c'est sur Aligre FM.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, sur Aligre FM, dans l'étincelle dans la ville, c'était les Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Vous connaissiez les Beatles, Paul ?
Tout à fait. Et c'est vrai que ça ne fait pas partie de mon époque, mais j'ai toujours plongé dans ces anciens succès pour enrichir mes connaissances et affirmer aussi les mœurs que cette belle musique peut nous apporter.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Les volontaires de Paris, donc, vous avez donné toutes les informations. Et sur Aligre FM, l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. On était ravis de découvrir ce que c'était que la fête de l'Europe. J'ai appris des choses. J'espère qu'il en est de même pour vous tous. Et je sens et je sais que la petite nappe musicale Christo Redentor, interprétée par Donald Byrd, ne va pas tarder à démarrer avant de nous quitter complètement. Je voudrais vous remercier Et je voudrais aussi remercier les services de presse qui m'ont aidé. Alors, je ne vais pas les citer tous parce que je ne les ai pas notés, en fait. C'est de ma faute, mais je les remercierai une autre fois pour préparer cette émission. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les membres du collectif qui travaillent sur l'organisation et la gestion d'Aligre FM, qui au quotidien sont en action. Et puis, bien sûr, je remercie infiniment toute l'équipe technique. Alors, il faut que je retrouve mon petit carton. Bah, je l'ai perdu. En tout cas, merci Thomas. Merci à tous ceux qui ont aidé sur la technique de cette émission. Sans oublier, bien sûr, l'équipe de production de l'Étincelle dans la ville. Stéphanie Malaret, Gaspard Poudon, que j'embrasse très fort. Voilà, l'Étincelle dans la ville, c'est une adresse mail, l'étincelle dans la ville@gmail.com. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'Europe, même si ça a été relativement rapide avec nos invités. On essaiera de voir si on peut faire un peu mieux la prochaine fois. Et nous étions devant la mairie de Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, c'est très sympa. Et bien sûr, l'Étincelle dans la ville se termine. N'hésitez pas, si vous avez des messages à nous faire passer, donc l'adresse l'étincelle dans la ville@gmail.com. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Aligre FM, ça fait 43 ans que ça dure. En revanche, l'Étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer
vous
la
êtes sur Aligre FM 93.1. Le programme que vous venez d'entendre était une rediffusion.